en 1948 la révolution de février, qui instaure donc la République démocratique et sociale, a fait du droit au travail, je précise, l'une de ses principaux mots d'ordre. Bon, l'expression à la fois à l'un des objectifs essentiels du nouveau régime, bien sûr, alors que de nombreux ouvriers souffrent du chômage, tout en dévoilant ses ambiguïtés et ses échecs. Bon. Le droit au travail, bien sûr, promu à partir des années 1830 par les divers auteurs et mouvements socialistes soucieux donc de répondre le paupérisme et la question sociale et de compléter les droits politiques par de nouveaux droits sociaux, envahit la presse 48 tardes, qui en fait le symbole de s'inspiration réformatrice et utopique du nouveau régime. Voilà, nouveau régime donc à cette époque-là. Alors que le nombre de journaux donc explose durant le printemps 1848, initiant une multitude de débats et de polémiques, le thème du droit du travail se retrouve en effet fréquemment dans les colonnes de la presse, qui voit le symbole donc des aspirations socialistes. L'emploi de cette formule s'accroît ainsi qu'dès 1847, avant de culminer en 1848, et puis de décliner, donc de s'effondrer pour presque disparaître au fur et à mesure de l'effondrement des espérances révolutionnaires et de la montée de la répression qui aboutit avec le coup d'État de Napoléon 1951 de Louis Bonaparte, empereur de France. Voilà. Donc c'était un petit rappel. Bon, je continue sur la lancée. Durant le printemps de l'été 1848, la formule du droit au travail fut au cœur des actions et des controverses. 48 heures après les vives espérances initiales, il a provoqué les colibés, les critiques incessantes. Bon, il a mobilisé de nombreux acteurs pour sa réalisation et a provoqué l'effroi des économistes à l'époque déjà. À l'époque, il y avait déjà des économistes. Vous voyez, c'est costaud. Hein. Et des conservateurs qui décelaient un premier pas vers le socialisme. Bon. Dans une formule souvent citée, un nommé Prudhomme affirmait d'ailleurs « Quel est ton nom, révolution de 1848 ? Je m'appelle droit au travail. » Effectivement, c'était bien ça. Bon, dans un premier temps, les journaux intérinent ce nouveau droit et l'écrivent favorablement. Hein. Alors que l'urgence, il y a l'apaisement des tensions sociales, il est toutefois mentionné pour des objectifs très variables pour les phalanstériens, c'est encore un nom français, ça, voilà. Par exemple, ou des disciples de Charles Fourier, ils prouvent la nécessité de l'instauration des phalanstères. Bon. L'exercice du droit du travail ne peut être garanti que par l'établissement de vastes ateliers agricoles, domestiques, industriels, bien sûr, tout à la fois en combinant toutes les branches de l'industrie humaine et prévenant le chômage par la tendance des travaux. Bon, pour d'autres, le droit du travail est retourné pour justifier la répression des mouvements sociaux, bien sûr, évoquant la grève des mineurs d'Anzin. Le Moniteur universel, c'était un journal qui, à l'époque, écrit ainsi le 12 mars 1848 que le grand acte de la République a été de proclamer le droit au travail. Elle ne peut donc permettre que quoi qui que ce soit, entrave l'exercice de ce droit sacré. Voilà. Aussi, suggère-t-il d'envoyer l'armée pour éviter que les grévistes n'empêchent les autres de travailler. Ouais. Comme quoi le travail est un droit et un devoir. Bon, on continue sur la lancée, bien sûr. Alors, peu avant la fermeture des ateliers nationaux, qui devait permettre la réalisation du nouveau droit, le premier projet de constitution présenté le 19 juin, donc de la même année, si je ne fais pas erreur, et abondamment repris et cité dans la presse, réaffirme la promesse de retravail dans son article. Il s'agissait de l'article 7, quoique l'article, on s'en fiche un peu. Donc, le droit au travail est celui qui a tout homme de vivre en travaillant. La société doit, par tous les moyens productifs et généraux dont elle dispose et qui sont organisés ultérieurement, fournir du travail aux hommes valides qui ne peuvent s'en procurer autrement. Autrement dit, messieurs, travaillez. Par exemple, dans le journal des villes de campagne du 19 juin 1948. Bon, mais l'échec des ateliers nationaux et la répression sanglante qui suit leur fermeture décidée le 20 juin 1948 transforme radicalement les termes du débat. Désormais, alors que le tournant conservateur du régime s'accentue parallèlement à la peur bourgeoise du spectre communiste, la dénonciation virale l'emporte. Voilà, donc ce qui laisse le plus à désirer peut-être dans ce projet de constitution, dont les imperfections sont nombreuses, mais dont les principales dispositions sincèrement appliquées répondraient aux nécessités publiques et aux vœux du pays. Bah, c'est la définition de fois essayer du travail, du droit au travail et de garanties essentielles qui caractérisent ce droit. Bon, nous n'avons garde de blâmer la pensée de toute conciliation et de prévoyance qui a décidé le comité de constitution à introduire ces définitions dans son projet. Mais au vague même de la réaction, il est facile de reconnaître que ce grave problème qui se cache sous cette forme d'apparence si simple du droit au travail sont loin d'être résolus. Au cours de l'année 1848, qui suit la dénonciation de Nassès de Durcir pour le journal de la ville de Saint-Quentin, par exemple, 6 août 1848, le socialisme, sous toutes ses formes, déguise ses aspirances sous cette nouvelle formule nouvelle. C'est nouveau, ça vient de sortir, voilà. De très vives querelles opposent les quelques partisans de ce droit qui peinent plus en plus à se faire entendre, dialogue de sourds. Les innombrables condamnations qui suscitent désormais dans la presse ainsi, le journal des débats du 14 juillet 1848 condamne sans appel, voilà, ce droit jugé irréaliste et dangereux dans une réponse à Louis Blanc. Le droit du travail, l'un de ces mots équivoques dans lequel germent les guerres civiles. Bon, le droit au travail devient progressivement le bouc émissaire et la cible privilégiée de tous les journaux conservateurs, c'est-à-dire les riches, les puissants, et les républicains modérés. Voilà, il y avait déjà des républicains modérés à l'époque, voyez un peu. Avec ça, on était servi. Bon, pour stigmatiser les divers courants socialistes et leurs projets, le constitutionnel dirigé par Adolphe Thiers, qui sera l'un des soutiens du bonapartisme, voilà, hein, c'était un copain donc à Napoléon, est particulièrement virulent à cet égard. Le droit au travail, comme on le sait, le symbole autour duquel les différentes sectes humanitaires, si peu d'accord et même si opposées entre elles, sont parvenues à se réunir. Et si M. Louis Blanc a impitoyablement repoussé du Luxembourg ses rivaux en socialisme, si M. Prudhomme se moque ouvertement des inventeurs du travail attrayant, le travail n'a jamais été attrayant, hein, qu'il accuse à son tour de ne pas savoir ce qu'il veut. Et si Pierre Leroux, professeur, un communiste, tiens, communiste nuageux en plus, qui n'est pas celui de M. Cabé, se disait carrière, enfin bref, il y en a toute une flopée. Hein. Cependant, tous ont adopté cette formule élastique du droit au travail, dont l'organisation du travail n'est que le corollaire. C'est une sorte de mot d'ordre qu'ils ont été trop heureux de trouver au milieu de l'incohérence de leur idée, de l'antagonisme et de leur prétention. Ne demandez pas du reste à ces innovateurs, bien sûr, de développer la moyenne qu'ils puissent employer pour assurer à chacun l'exercice de ce droit nouvellement imaginé. Ils se garderaient bien de vous répondre. Quoique, là, ils ne répondent plus personne. Les querelles atteignent leur apogée, au début du siècle, au début du mois de septembre, lorsque le projet de constitution commence à être discuté au Parlement. Le 11 septembre, le Drury-Rollin défend encore le double droit à l'assistance et au travail, affirmant on a dit le droit au travail, c'est le socialisme. Je réponds non, le droit au travail, c'est une république appliquée. Voilà. Ça, c'est un peu la question. Ça, c'est la question-réponse entre deux antagonistes. Bon, mais lors de la séance du 14 septembre de la même année, hein, les membres de l'Assemblée constituante repoussent finalement la constitutionnalisation du nouveau droit avec le soutien de la presse modérée et conservatrice, terrifiée par le spectre de la guerre civile. Dans les jours qui suivent, le soulagement s'exprime dans les colonnes des journaux, alors que le droit au travail a été remplacé par la formule bien moins subversive. La République doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux. Voilà quelque chose de bien. C'était bien. Pour l'époque, c'était bien. Alors, par la suite, alors que d'autres urgences politiques s'imposent et que la plupart des figures socialistes sont emprisonnées ou ont dû fuir le pays, la revendication d'un droit au travail disparaît du débat intellectuel de la presse. Il ne subsiste plus qu'à l'état de trace comme une curiosité de l'expérience 48 ans et de ses illusions lyriques. Voilà. Bon, The Conversation est un média qui collabore étroitement avec les chercheurs et les chercheuses pour une expertise accessible à tous. Voilà. Et j'en resterai là pour ces explications. Il est 14h10, je vais demander à la régie de mettre un peu de musique et je reprends l'émission d'ici 5 minutes. Allez, un peu de musique.
senza senso. Da sempre io ti sto cercando. Oh, sono sicuro che ci sei. Fra tanta gente tu mi stai aspettando.
Merci la régie. Bien, il est 14h15, nous rendrons l'antenne vers les 3h moins 5 à peu près. Industrie. La France a toujours été un pays industriel. Ça, c'est... Bon, il y a eu aussi ce qu'on a appelé la désindustrialisation de la France, c'est-à-dire la perte des industries en France. Alors, essayons de voir un peu ce qu'il en est exactement. la désindustrialisation de la France, c'est quand même un phénomène économique. Économique et aussi, qu'on s'appelle donc bon, je peux dire de revenus, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Relevant d'un phénomène de désindustrialisation plus large des pays développés. Le phénomène qui a commencé dans les années 1970, et oui, c'est prolongé jusqu'à ce jour, donc jusqu'à maintenant, ou hier, ou avant-hier, voilà. De la Grande Dépression à la Seconde Guerre mondiale, 39-45 bien sûr, que moi je n'ai pas connu, la part des industries mécaniques dans l'industrie manufacturière recule après la Grande Dépression qui a frappé la France entre 1929 et 1938. Elle passe de 25 à 23,5%. Bon, la possibilité d'une désindustrialisation française a fait l'objet de débats dans les années 40-50. Le régime de Vichy, celui-ci n'aurait jamais dû exister, promeut une désindustrialisation en vue de renforcement de l'économie agricole. Philippe Pétain, voilà. Confié à la presse américaine le 22 août 1940, la France de demain sera à la fois très nouvelle et très ancienne. Elle redeviendra ce qu'elle n'a jamais cessé d'être, une nation essentiellement agricole. En 1946, un parlementaire affirme à la tribune que la désindustrialisation de la France a diminué le nombre de consommateurs ouvriers, aurait pour premier résultat de réduire notre principal débouché agricole, le marché français. Entre 1936 et 1949, la part de la population active dans l'industrie stagne à nouveau, à un niveau élevé passant 32,5%. Quoique les pourcentages, ce n'est pas très important. Alors, les 30 glorieuses, ça a été quelque chose de phénoménal. À la crise de 1974, les 30 glorieuses voient renforcement des capacités de production industrielle. Le mouvement a ralenti, cependant, avant de chuter à partir des années 70. Quoi. Voilà. Ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Bon, il n'y a pas eu de gloire. Hein. La part de la population active travaillant dans l'industrie et le bâtiment passe de 33,1% en 49 et 36,1% en 62. Donc, vous voyez un peu de tout ce qui a été perdu. Quoi. Bon, de la prise de la crise de 74 aux années 1980, bien sûr. Les années 70 marquent le début de la désindustrialisation de la France. Elle commence dans les secteurs en crise, c'est-à-dire ceux qui sont peu compétitifs et qui souffrent déjà avant le premier choc pétrolier. Bon, il s'agit du textile, de la construction navale, de la sidérurgie, du charbonnage. Bon, ce mouvement se poursuit dans les années 80. Voilà, et oui. Bon, ainsi, la France n'est pas spécifiquement touchée par la désindustrialisation qui frappe l'écrasante majorité des pays développés. Depuis les années 1960, notamment du fait de gains importants de productivité et du développement du secteur des services. La France sera assez peu touchée que certains pays développés. Dans les années 80 aux années 2010, plus près de chez nous maintenant, hein, entre 1970 et 2020, la France est le pays européen qui s'est le plus désindustrialisé, avec une perte de 2,5 millions d'emplois industriels, donc perdus. Voilà. Cette chute est concomitante de la chute de la part de l'industrie manufacturière dans la valeur ajoutée de l'ensemble de l'économie, hein, qui est passée de 25%, 61%, etc., et jusqu'en 2010. Bon, en 2001, la part de la population active travaille dans l'industrie et les bâtiments a atteint 26%. Bon, la chute cause en partie une diminution des parts de marché de la France. Entre 2000 et 2010, la part du marché de la France a diminué de 3,5 points. Bon, soulignant que c'est le plus fort recul dans des pays de la zone euro. Bon, cela contribue aussi au chômage. Et bien sûr, une étude estime qu'un emploi perdu dans l'industrie provoque la perte de 3 emplois dans le reste de l'économie. Donc, plus on perd des industries et plus on gagne du chômage. Bon, voilà. Bon, depuis les années 2010, le nombre d'emplois industriels stagne à partir de 2015. Voilà. Il enregistre des créations nettes de 2017 à 2019. Et pour la première fois depuis 2000, 2022, dans ce rapport, les métiers en 2030 en France estiment que la dynamique de désindustrialisation s'est essoufflée. Voilà. Et j'en resterai là. Alors 2030, nous en sommes encore très loin. Hein. Voilà. Il faudra qu'on compte 5 ans pour arriver en 2030 et que ça passera-t-il d'ici là, ça. Personne ne pourra le dire. Bon, dans la valeur ajoutée, elle devrait se stabiliser jusqu'en 2030, je le redis. Au moins, elle remarque que l'emploi industriel devrait augmenter. Donc il faudra attendre 2030 et on ne sait pas trop ce qui se passera après par la suite. Bon, le progrès technique, oui, bien sûr, il y a eu le progrès technique. Et selon une étude de la Direction générale du Trésor en 2010, le premier facteur de perte d'emploi industriel, il a causé la suppression de 65% des emplois sur la période de 2000 à 2007. Cela signifie que l'industrie a connu des gains de productivité importants qui ont rendu inutile un grand nombre d'emplois. Voilà. Et le pays est incapable de produire autant de valeur ajoutée industriel avec moins de travailleurs. C'est-à-dire, on va bien faire tourner des usines, mais avec beaucoup moins de travailleurs. Voilà. Et j'en resterai là pour la désindustrialisation. Un peu de musique, et je reprends l'émission d'ici quelques minutes.
Cercando, oh, sono sicuro che ci sei, fra tanta gente tu mi stai aspettando.
Sempre amar, amor é sempre. Radio Galère
88.4.
Voilà, il est 14h27 et nous continuons l'émission avec notre ami le régisseur. Et chaque fois j'oublie son prénom. Bon, mais c'est pas grave, hein. C'est pas gênant. Bien, le droit au travail. Alors, tout le monde a droit au travail. C'est fondamental, c'est comme ça, c'est écrit dans la Constitution, le droit. Le travail est un droit. Bon. Maintenant, il y a travail. Bon, on ne va pas commencer à rentrer dans des... Ça s'appelle... je ne vais pas pour commencer à approfondir beaucoup là-dessus, mais nous y reviendrons très prochainement sur une émission qui sera un peu plus complète. La révolution, donc... de février 1848, qui instaure la République démocratique et sociale, a fait du droit au travail l'un de ses principaux mots d'ordre. Bon, l'expression dit à la fois l'un des objectifs essentiels du nouveau régime, alors que de nombreux ouvriers souffrent du chômage, tout en dévoilant ses ambiguïtés et ses échecs. Le droit au travail promu à partir des années 1830 par les divers auteurs et mouvements socialistes soucieux de répondre au paupérisme et à la question sociale, et de compléter les droits politiques par de nouveaux droits sociaux. Envahi la presse Carat du Tard, qui a fait le nouveau symbole de s'aspiration réformatrice et utopique du nouveau régime. Bon, alors que le nombre de journaux explose durant le printemps de cette année, initiant une multitude de débats et de polémiques, le thème du droit au travail se retrouve en effet fréquemment dans les colonnes de la presse. On y voit le symbole des aspirations socialistes. L'emploi de cette formule s'accroît ainsi dès 1847 avant de culminer en 1848. Voilà, a fini de décliner pour presque disparaître au fur et à mesure de l'effondrement des espérances révolutionnaires et de la montée de la répression qui aboutit avec le coup d'État de Napoléon de 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III. Bon, durant l'été 1848, la formule de droit au travail fut au cœur des actions et des controverses. 48 ans après la vie espérance initiale, il a provoqué des colibés et des critiques incessantes. Il a mobilisé de nombreux acteurs pour sa réalisation et provoquer l'effroi des économistes et des conservateurs, qui aient décelé un premier pas vers le socialisme. Dans une formule souvent citée, Prudhomme affirmait d'ailleurs « Quelle est notre révolution de 1848, je m'appelle droit au travail ». Voilà. Bon, dans un premier temps, les journaux intérinent ce nouveau droit, ils le décrivent favorablement, alors que l'urgence est l'apaisement des tensions sociales. Il est toutefois mentionné pour des objectifs très variables pour les phalanstériens, par exemple aux disciples de Charles Fourier, qui trouvent la nécessité de l'instauration. Pour d'autres, le droit au travail est retourné pour justifier la répression des mouvements sociaux, évoquant la grève des militants d'enseignement. Voilà. Là, je fais un petit rappel sur ce qui a été dit ultérieurement. Hein. Voilà. Et je resterai là pour ces petites explications. Allez, un peu de musique et je reprends l'émission.
88.4, Radio Galère.
Voilà. 14h35, encore 20 minutes d'antenne. Bien, maintenant, nous allons voir un peu ce qu'il en est des pertes d'emploi. Alors, perdre un emploi, c'est quand même quelque chose de très grave, étant donné que cela peut avoir généralement beaucoup d'impact sur la vie de... sur l'individu qui a perdu son travail, et ainsi de suite. Et là, beaucoup de choses peuvent venir de se greffer derrière, c'est-à-dire chômage, revenus amoindris, et pas mal d'autres choses, et voilà. Donc, perdre son emploi, c'est... c'est perdre, ce qu'on peut dire, son identité. Or, l'identité n'est pas seulement une image. L'identité définit à la fois ce que nous sommes et ce que nous faisons. Une personne qui perd quelque part de son identité est désorientée. Elle ne sait plus qui elle est, donc elle ne sait plus ce qu'elle doit faire, quels sont ses rôles, voilà, quelle est sa fonction, à quoi sert-elle. Très souvent, les personnes perdent en même temps que leur emploi, le désir d'agir, elles sont comme groupe, il vient un sentiment d'absurdité, comme voilà, etc., etc., etc. À ce sujet-là, il y a un livre que je vous recommande, c'est un livre de Jean-Paul Sartre qui date de 1938, qui s'appelle La nausée. Je ne sais pas si ce livre, on peut encore le trouver. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est dit, c'est dit. La personne, donc, travaillant dans une entreprise, une association ou une collectivité chaque matin en arrivant au travail, elle est reconnue par ses collègues, sa hiérarchie, ses clients, ses patients, etc., etc. La journée durant, elle assumait des rôles et réalisait un nombre incalculable d'actions qui donnaient du sens, donc, à sa vie, quoi. Même un travail difficile ou déplaisant favorise l'équilibre psychique. Le travail est donc un des rares moyens d'échapper à l'absurdité de l'existence. Une personne qui perd son travail, elle perd donc une grande part de ce qui donne du sens à sa vie et elle peut vaciller dans la précarité. Bon, évidemment, l'identité n'est pas structurée seulement par le travail, bien sûr. La personne existe à travers ses relations familiales. Ses relations de couple, ses activités sociales, plus la personne a une vie diversifiée, et moins la perte d'emploi est traumatique. L'inverse est également vrai aussi. Les personnes qui investissent beaucoup de temps et d'énergie dans leur travail sont aussi celles qui sont les plus affectées par une perte d'emploi. C'est le cas du mari, c'est le cas de beaucoup de gens, voilà. La vie des cadres dirigeants, bien sûr, eux aussi, les cadres ne sont pas exempts de se retrouver donc un beau jour au chômage, donc sans plus rien, quoi. Voilà. Donc perdre son emploi, c'est quelque chose de terrible. Bon, perdre son emploi revient à se couper donc de son avenir. Il n'y a plus de perspective, c'est comme rouler sur une route et être entraîné. Soudain, dans un accident, tout s'arrête brutalement, sans l'avenir. La personne est confrontée au présent, comme ce présent n'est pas acceptable. Elle se réfugie donc dans le passé. L'avenir, bon, est un lieu d'espoir, mais après, ça vire vite, qu'on s'appelle au désespoir. Le passé est un lieu de remords et de regrets. La personne est en proie à des puissantes ruminations. Elle revit encore et encore à la reboutade de sa trajectoire professionnelle, comme un accident revit encore son accident. Or, le passé n'est pas un lieu de résolution de problèmes. La personne est coupée de son présent, elle est coupée de ce qu'elle est, de sa situation réelle. Ce n'est pas un déni, plutôt une coupure. La pensée tourne à vide et la personne est coupée de sa capacité d'action. Par capacité d'action, j'entends la capacité à réaliser des actions concrètes pour résoudre le problème, qu'à laisser son corps gérer émotionnellement et psychiquement. La personne est dans un état de sidération qui la coupe de tout ressort et la laisse comme paralysée. Voilà. Bon, dans les cas, le deuil ne peut pas se faire, bien sûr, car la personne refuse de prendre sa place. Elle refuse de vivre dans le réel, qui est le seul lieu possible. La personne est hors d'elle-même. Le résultat est une personne fantomatique qui donne l'impression de ne jamais vraiment être là. Elle écoute sans écouter, elle agit sans agir, elle semble étrangement absente. Ce qui est le plus inquiétant dans l'histoire, pour les proches, car la personne est comme insaisissable, tous leurs efforts pour communiquer sont vains parce qu'ils n'atteignent pas la personne en question. Voilà. La perte d'emploi, la perte des relations sociales, il n'est pas question ici seulement de collègues appréciés, des collègues détestés, marqueront peut-être autant que des collègues, et où une hiérarchie Aimer, je répète souvent cette phrase, les autres sont des points d'appui de l'âme. Nous existons en tant que personnes au travers de relations, de confrontations, d'alliances, d'amour et de haine avec notre entourage. Les autres sont au psychisme, ce que le sol tend à nos pieds. Un point d'appui indispensable à la disparition d'un ennemi est aussi terrible pour l'identité que la disparition d'un ami. Voilà. Et je reste là pour cette histoire donc de perte d'emploi. Comme je le dis, je le répète, c'est vraiment quelque chose de terrible. 14h40, un peu de musique et je reprends l'émission. Voilà, 14h43, 3h moins le quart, encore quelques minutes d'antenne. Bien, allocation chômage, alors, a-t-on droit à l'allocation chômage? Eh bien, nous allons voir ça. Vous avez perdu dans votre emploi, etc., etc., vous pouvez avoir droit chaque mois à une allocation après du chômage, allocation d'aide au retour à l'emploi, ARE. Pour y avoir accès, il vous faut remplir plusieurs conditions. Alors, essayons de voir un peu ce qu'il en est exactement. Vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi. Vous devez vous inscrire à France Travail dans un délai de 12 mois, suivant la fin de votre contrat de travail, sauf en cas d'allongement de ce délai. Bon, voilà. Et nous revenons à quoi ? Sur les lignes. Voilà. Inscrivez-vous en ligne sur France Travail. Et ceux qui n'ont pas d'ordinateur, ils ne pourront jamais s'inscrire. Voilà. Voilà. Bon. Vous résidez sur le territoire national. Vous devez résider sur le territoire national dans lequel s'appliquent les règles de l'assurance chômage. Ce qui signifie que vous ne pourrez pas toucher d'indemnisation si vous partez vous installer ailleurs, à l'étranger, changer de ville, changer de pays, aller quelque part, aller en Afrique, au Guatemala si vous voulez, n'importe où. Voilà. Mais vous ne serez jamais indemnisé, voilà. Même si vous restez sur le territoire français. Bon, de là, d'une certaine durée, que ce soit pour travailler ou pour des congés. Voilà. Pour en savoir plus, consulter, je m'absente de mon domicile, je pars en vacances, la location, chômage, etc., etc., etc. Bon, bon. C'est bourré, comme ça s'appelle, c'est bourré de sites. Le mieux c'est de se rendre directement sur les sites de Pôle emploi et demander de rendez-vous, parce que là, c'est un peu, comme ça s'appelle, c'est vraiment un peu particulier. Vous ne pouvez pas prétendre à la retraite à taux plein. Vous ne devez pas pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, à compter de l'âge légal du départ à la retraite. Voilà. Après avoir liquidé une retraite anticipée à taux plein. Voilà. Bon, à savoir, vous pouvez avoir des droits pour partir à la retraite plus tôt, bien sûr. Bon, le départ à la retraite a été mis à 60, 64 ans. Bon, mais pour bien faire, il faudrait que la retraite revienne quand même à 60 ans, quoi. Hein. Pour les métiers pénibles, surtout. Mais ça, croyez-moi, ce n'est pas gagné. Bon, si vous avez commencé à travailler très jeune, voilà. Si vous êtes travailleur handicapé, si vous ne pouviez plus travailler à cause d'une maladie professionnelle, d'un accident de travail, si votre métier était à risque pour votre santé, voilà. Renseignez-vous auprès de votre caisse de retraite. Voilà. Bon, la caisse de retraite, généralement, les travailleurs, c'est... La caisse de retraite, généralement, les travailleurs à Marseille, c'est la rue Georges. Voilà. Bon, vous êtes physiquement apte à l'exercice d'un emploi, etc., etc., voilà. Vous ne devez pas avoir quitté volontairement votre emploi, effectivement. Si vous le quittez, vous n'aurez droit à rien. Vous ne devez pas avoir refusé à deux reprises au cours des 12 derniers mois une proposition de CDI à la suite d'une fin de CDD ou de contrat d'émission. Bon, les contrats d'émission, c'est des contrats très courts, hein, faut pas croire. Hein. Bon, le contrat CDD, c'est un contrat à durée déterminée qui peut aller de 3 à 6 mois. Le contrat à durée déterminée, ben, du jour où vous signez, bien, vous avez un contrat indéterminé pour peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais ça m'étonnerait parce qu'avec actuellement, avec tout ce qui se passe, vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà. Vous devez avoir travaillé sur une certaine durée, voilà, etc., etc. Bon, comment sont calculés les jours travaillés? Les jours travaillés sont recherchés au titre de plusieurs emplois. Sur une semaine civile, du lundi au dimanche, ne sont pas pris en compte que 5 jours maximum. Si vous aviez plusieurs emplois en même temps, chaque jour ne sera décompté qu'une fois. Voilà. Les périodes de formation professionnelle peuvent être assimilées à du travail à la limite du tiers du nombre de jours travaillés, sauf pour le calcul à condition d'affiliation de 5 mois pour les emplois saisonniers. Voilà. Bon, quoi que les emplois saisonniers, généralement, c'est ce qu'on appelle, c'est ceux qui travaillent dans l'hôtellerie, donc dans les stations de ski, dans les champs, dans les fermes, tout ça, voilà, c'est tous des emplois saisonniers, quoi. Voilà. Il est 14h48, je pense que l'on peut rendre l'antenne. Voilà. Nous rendons l'antenne et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, où nous recevons nos amis de la Libre Pensée. Voilà. Allez, bon après-midi à toutes et à tous. You know I belong to you.